S'il n'y a pas de prédication, ce n'est pas un culte. Parce qu'on remonte à la tradition de la Réforme, où bien sûr la parole a été au centre du culte, et nous ne voulons pas, bien sûr, nous quitter sans que cette parole nous interpelle. Vu l'heure, si je prêchais comme d'habitude, on sortirait à une heure ou une heure et demie, voilà, donc je ne vais pas vous faire le coup ce matin, bien que j'ai de la matière hein, pour le faire. Mais bon, oui, mais enfin, c'est pas la parole que le plus important, mais il faut que tout se fasse. Hein. John Wimber disait que tout se fasse. Voilà. Donc, je vais vous laisser les versets et je vais vous demander de les lire chez vous. Voilà. Vous voulez bien, hein, mais c'est pas parce que je veux pas lire la parole, c'est parce que je veux vous gagner du temps. Voilà. Donc, excusez-moi, mais normalement, on lit la parole. C'est Exode, chapitre 31, versets 1 à 6. Donc, Exode, ça explique la sortie du peuple d'Égypte avec Moïse. Daniel, chapitre 6, versets 2 à 6. Daniel avait en lui... Daniel, c'était un haut fonctionnaire, un très haut fonctionnaire, puisque il est devenu le premier ministre en Babylonie. Donc, Daniel 6, versets 2 à 4, il est dit qu'il avait l'esprit de Dieu en lui pour diriger le pays et pour assumer ses responsabilités. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 28, et 2 Corinthiens, chapitre 4 à 7. Donc ce sont ces lectures qui vont sous-tendre la prédication que je vais faire, en fait, qui expose un petit peu, à partir de ces versets, le contenu biblique. Parce que notre prédication s'appuie sur la parole. Hein. L'autorité, c'est la parole. C'est Dieu qui a parlé. Donc nous parlons, nous essayons de commenter un petit peu ces récits que je vous ai cités ce matin. Alors à la question, parce qu'il y a une question hein, qui se pose, pourquoi est-il important que les croyants s'engagent en faveur des pauvres? C'est une question, je sais que certains chrétiens trouvent ça un peu déplacé pour certains, peu importe, mais cette question, pourquoi est-il important? La réponse naturelle pour un croyant peut être toute simple, parce que Dieu le commande. Ok, c'est vrai, Dieu le commande. Bon, on peut en rester là. Et elle devrait être suffisante pour nous mettre à l'œuvre. Mais beaucoup de personnes et d'organismes travaillent dans ce domaine. Donc, c'est quoi la valeur ajoutée hein? Parfois, c'est d'ailleurs un travail de très grande qualité. Hein. Je parle des laïcs, des gens qui ne sont pas croyants. Donc, à quoi cela servirait-il que des croyants s'engagent en plus? Quel serait l'apport du croyant dans cet engagement? Sera-t-il le même que celui des autres personnes engagées dans le social ou l'humanitaire? Est-ce que la seule différence sera-t-elle quantitative, parce qu'il y en a un peu plus hein, qui travaillent dans ce domaine-là, ou sera-t-elle qualitative? Le croyant apporte-t-il quelque chose d'autre? Donc, quelle est la spécificité du croyant? Donc, il faudrait qu'il y ait une projection là, qui arrive. La prédication, c'est sur la spécificité du croyant. Tu m'entends non, mais... Bon, d'accord. Oui, fais-moi des signes, parce que ça veut dire que ça marche. Sinon, j'ai l'impression que tu dors, là. Non, parce qu'on ne le voit pas. Hein, et... Alors, survolons quelques vérités. Hein. Il y a... six vérités que je vais aborder, donc rapidement, je m'excuse de ce que je vais faire très vite. Six vérités bibliques et les conséquences qu'on peut tirer sur l'impact des engagements des croyants en faveur des pauvres. Tout d'abord, la dignité et la valeur de tout homme sont des valeurs fondamentales de l'Écriture. La dignité, tout d'abord, elle est liée à la création d'Adam et d'Ève. Nous avons dans Genèse le récit de la création de l'homme et de la femme. À l'image de Dieu. Ça, c'est un plus, bien sûr, du récit biblique, à l'image de Dieu. Cette image se transmet depuis Adam par filiation, père, fils, etc. Et ainsi, tout homme bénéficie de cette dignité. Tout homme. C'est pourquoi dans Luc, au chapitre 3, versets 23 à 38, Jésus est désigné comme fils de Dieu par sa filiation naturelle, comme descendant d'Adam. Fils de Dieu. Relisez cette généalogie, vous serez surpris. Il est désigné fils de Dieu par Adam, pas par le Saint-Esprit. C'est à cause de cette création en image de Dieu que l'apôtre Jean peut faire le lien entre le Dieu qu'on ne voit pas et le frère qu'on voit. Rappelez-vous, 1 Jean, épître de Jean, chapitre 4, verset 20. Car comment prétendre que l'on aime le Dieu invisible si l'on n'aime pas sa vivante image régénérée dans le frère ou la sœur en Christ? Et Jacques, l'épître de Jacques, hein, qui est une petite épître, demandant comment une même langue pourrait louer le Seigneur et maudire des hommes créés à son image. Tout être humain est en image de Dieu, et c'est pourquoi il possède une dignité intrinsèque qu'aucune circonstance, aucune situation ou condition ne peut lui enlever. Premier point, la dignité. Le deuxième point, c'est la valeur. La valeur de l'être humain vient de ce que Dieu lui-même a spécifiquement désiré son existence. Et là, il y a des versets dans Psaume, Job, etc. Nos handicaps. Il y en a qui ont des handicaps ici. On n'a pas d'handicapés physiques ici, hein, mais on peut les accueillir. Mais on a tous quelque part des handicaps, hein, ne serait-ce qu'on ne peut pas tout faire. Hein. Moi, je ne peux pas faire ce que fait ma femme. Moi, je suis d'origine scientifique, elle est littéraire. Quand je lui pose une question, elle répond tout de suite. Je dis, comment tu fais? Bon, elle était formée pour ça. Inversement, on se complète. Bon, sur la science, je lui apprends des choses et elle a même changé des moteurs avec moi, hein, quand elle était petite. Première amicie, c'est ça? Changer le moteur avec moi. Voilà, donc on se complète, mais on a des handicaps. Bon, c'est pas les mêmes handicaps, bien sûr. Donc, nos handicaps, permis par Dieu, voulu même selon ses desseins mystérieux, ne l'empêche pas de nous aimer et d'avoir des projets pour nous. Ainsi Dieu demande qui a doté l'homme d'une bouche, qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle. N'est-ce pas moi, l'Éternel? À un Moïse, il dit ça à un Moïse, qui veut lui faire comprendre, qui veut faire comprendre à Dieu ses difficultés d'élocution. Quand Dieu envoie Moïse en disant « va sauver mon peuple », il dit « ah oui, mais je peux pas, j'arrive pas à parler ». Hein, est-ce qu'il bégayait, je ne sais pas, hein, mais bon, il met ça en avant pour dire à Dieu, non, je ne peux pas, cette mission, pas possible. Mais Dieu en avait conscience. Dieu a tissé Moïse dans le ventre de sa mère avec ses difficultés d'élocution, tout en sachant qu'il allait l'appeler à ce ministère. Donc vous voyez, Dieu connaît toutes choses. Et Jésus exclut que le handicap puisse être une sanction de Dieu, une malédiction, selon Jean chapitre 9, verset 2. Voyez-vous, notre statut d'occidental pourrait nous induire en erreur et nous faire croire que ce regard sur l'être humain est celui de tout homme. Or, pour la grande majorité des hommes, ce n'est pas le cas. Car même si notre monde laïque, hein, républicain, s'en défend, la mentalité occidentale a été formée par la culture judéo-chrétienne. Et elle est encore imprégnée. Les valeurs de notre société ne sont pas des valeurs innées, présentes dans toutes les cultures, loin s'en faut. Prenez par exemple des régions d'Afrique. Hein. Les Africains connaissent plus ce sujet que moi. Un enfant dont la mère est décédée en couche porte malheur. C'est vrai? Bon. Au mieux, il sera l'objet de méfiance ou d'accusations diverses lors de catastrophes, de manque de pluie, de problèmes divers dans le village. Au pire, il sera abandonné à sa naissance. Voyez-vous la superstition? Dans d'autres régions du monde, ce sont les jumeaux qui portent malheur. Sans doute pour des raisons similaires, parce que statistiquement, plus de femmes meurent en couche lors des grossesses gémellaires, et cela a donné naissance à une superstition. Ailleurs, ce regard sera posé sur des enfants roux ou sur des enfants albinos. Ce sont dans beaucoup de régions où les missionnaires qui ont créé les premiers orphelinats, et ce n'est pas le fruit du hasard ou de moyens financiers différents, car la solidarité traditionnelle africaine permet par ailleurs de prendre soin d'un enfant qui perd l'un de ses parents, ou dans d'autres circonstances. Mais c'est la superstition qui amène cette vie. Vous prenez les parias en Inde. On mesure que toutes ces notions bibliques de dignité et de valeur humaine peuvent apporter à quelqu'un qui, de par sa famille de naissance, est considéré comme hors caste, sans valeur, et bien à quelqu'un qui croit que sa place de miséreux et le juste rétribution d'une existence antérieure. En Occident, et là je vais faire très vite, mais je ne vais même pas aborder le sujet, le regard des handicapés est particulier. D'un côté, on impose qu'on fasse toute la place aux handicapés. De l'autre côté, on essaye par la détection prénatale d'éviter leur naissance. Hein, parce qu'on a peur, parce que ce soit un poids sur la société. On comprend bien la démarche. Mais ces paradoxes sont présents dans nos sociétés. Mais Jésus, ils donnent la même valeur. Et ceux qui ont des enfants trisomiques et qui sont chrétiens, qui portent le regard sur cet enfant, ils leur donnent de la valeur. On en connaît beaucoup dans notre entourage. Le troisième point, c'est les moyens justes. On peut donner des moyens aux pauvres, mais c'est des moyens justes, dans la justice. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 1, pose la démarche de la justice. Et c'est à cela que nous nous appliquons. Si tous sont d'accord pour dire qu'il faut réduire la mortalité infantile ou la mortalité des mères pendant la grossesse, qu'il faut pallier la souffrance des êtres humains, tous n'auront pas les mêmes moyens ou les mêmes objectifs à atteindre. La société, parmi d'autres moyens, prônera sans doute l'avortement pour éviter le handicap, éviter les grossesses difficiles, soulager les mères de nombreuses familles. De même, elle prônera l'euthanasie active pour pallier les souffrances de fin de vie ou les handicaps lourds. Le chrétien, s'il désire vraiment suivre, disons, la démarche du Christ, eh bien, il donnera de sa personne. Hein, et il essaiera d'aider les personnes plutôt que de les éliminer. Le quatrième point, c'est l'appel, la spécificité de l'appel. Si le croyant s'engage dans ce service vers les pauvres, ce sera souvent avec la conviction d'y avoir été appelé par Dieu. Ça, c'est quelque chose de particulier, appelé par Dieu. Appel en général, appel général que Dieu adresse à tout croyant, hein, Matthieu 18, mais appel particulier qu'il adresse à certains. Je t'appelle pour t'occuper de telle mission, de telle personne, de tel handicapé, de tel, comme on l'a vu ce matin. Cette vocation, qu'on appelle donc l'appel, fera qu'il verra son engagement non seulement comme un service en faveur des hommes, mais aussi comme un service pour Dieu. Et cela ne pourra qu'augmenter son sérieux et sa consécration dans l'engagement. Les témoignages sont très nombreux, et là aussi je ne peux pas vous donner les détails, mais c'est très intéressant de voir la différence entre certains chrétiens qui sont appelés par Dieu et d'autres qui sont découragés et bien sûr qui ont des attitudes différentes. La vocation, c'est ce qui fera que l'on puisera les forces pour aller de l'avant, que l'on œuvrera avec sérieux, sachant que le Seigneur me veut à cette place et qu'il attend de moi un travail de qualité. Paul le dira dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. À cela s'ajoutent les dons spirituels, cinquième point de spécificité chrétienne. Les dons spirituels, ça c'est pas des moindres. Parce que si tous s'engagent avec leur capacité naturelle, leur talent, leur force à la naissance, leur connaissance, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7 et dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10 qu'à tous les croyants, Dieu accorde des dons particuliers par son Saint-Esprit et que si Dieu appelle, il pourvoit aux besoins. On dit très souvent, Dieu donne ce qu'il ordonne. Donc s'il vous appelle, s'il vous ordonne une mission, il va vous donner les ressources. Et nous avons fait cette semaine. Cette semaine, nous avons passé une semaine dans le jeûne et la prière pour préparer les projets de cette Église. Et nous avons terminé, pour ceux qui étaient là, par une promesse d'alliance. On a dit, Seigneur, nous voulons bien donner nos forces, mais toi, tu donnes les ressources. Nous comptons sur toi. C'est lui qui pourvoit. Il donne les ressources. Et nous comptons sur cette alliance. Sinon, nous ne sommes rien de plus que quelqu'un du monde. Nous voulons que Dieu nous aide. Et nous attendons à cette aide pour les ressources, quelles qu'elles soient. Et Dieu nous donne les ressources, il nous donne des dons. Dans 1 Corinthiens 14, 12, des dons comme étant pour l'édification du corps, ça ne veut pas dire que le corps il s'occupe de lui-même, mais il donne vers les autres. Ce sont les dons de connaissance. C'est important d'avoir des dons de connaissance. Vous allez beaucoup plus vite au résultat si vous avez une connaissance du sujet. J'ai des connaissances spirituelles. Hein. Il peut vous donner immédiatement une connaissance sans passer par les grandes études, des grands dossiers. Je pense à une amie qui est en Écosse et qui s'occupe d'aider des gens en difficulté relationnelle et tout. Elle dit, bon, elle a fait je sais pas combien d'études. Elle est officiellement reconnue par l'Église officielle d'Écosse hein, pour s'occuper de cette entreprise. Elle dit, très souvent, je prie, ça va beaucoup plus vite. Dieu me montre les difficultés de la personne pour l'aider à débloquer la situation. Parce que dans la prière, je reçois un don, une vision, quelque chose qui m'aide pour la personne. Donc, les dons de connaissance, de sagesse, de discernement, de service, de miséricorde, de libéralité sont précieux dans ces domaines, en plus des capacités naturelles. Ces dons, c'est l'Esprit Saint lui-même qui agit en nous et à travers nous pour nous aider dans ce service. Et quel acte aura plus d'efficacité que celui que Dieu lui-même, initié par lui, va donner? Vous ne croyez pas? C'est à cela que nous croyons. Dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est bien sûr le chrétien est porteur de l'évangile. Évangile veut dire bonne nouvelle. Alors c'est étonnant parce que très souvent on fait venir des gospels ici, là, un peu moins ces derniers temps. Et puis il y a des Français qui aiment beaucoup le gospel qui viennent. Et puis une fois on a fait venir un groupe qui chantait en français, c'est-à-dire qui traduisait les gospels en français parce qu'ils voulaient que les gens comprennent. Ben, on a été incendiés à la sortie par plusieurs personnes en disant « Mais c'est un scandale, moi je veux des gospels comme d'habitude en anglais. » C'est mieux pour vous comprendre. Ah ben non, je ne veux pas comprendre, moi. Je veux juste la musique et puis le swing et tout ça. Vous voyez, c'est ça le gospel pour eux, tu vois. Vous voyez, mais attendez, ceux qui ont écrit les gospels, les Noirs américains, ils avaient un message, et c'est le message qui est important, vous voyez. Mais comme quoi, on est déphasé dans nos cultures. Eh bien, l'évangile, le gospel, bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du royaume. C'est quoi le royaume? Bien sûr, en France, maintenant, on n'a plus de roi. Donc, royaume, puis en plus, on est hostile à la royauté. Mais c'est un roi. Jésus a dit, le royaume de Dieu est venu plus proche. Parce que Jésus est venu, il a montré que ce roi, qui est un régime où Dieu prend soin de nous, eh bien, nous sommes ses sujets, nous sommes au bénéfice de ses bienfaits, de ses grâces. Et ça, c'est quelque chose de puissant. Mais d'abord, bien sûr, il faut que nous le vivions, nous, pour le partager. Et c'est la voix de Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous parle. Nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle. Et le plus extraordinaire, c'est que nous sommes aimés de Dieu. Et je le dis souvent, les Américains qui aiment beaucoup les expériences, ils font des expériences sur tout. Ils ont fait des expériences sur des enfants, donc des nouveau-nés. D'un côté, ils ont mis des nouveau-nés où on s'occupait d'eux. Les sages-femmes les prenaient, tout ça. Et de l'autre côté, ils avaient de la nourriture, mais personne ne les touchait. Eh bien, pratiquement tous sont morts. Ils n'ont pas peur de nourriture. De quoi ils sont morts? Eh bien, d'affection, de se sentir aimé. Vous voyez, c'est rien. Mais c'est énorme pour la vie. Et se sentir aimé, se sentir que nous ne sommes pas un microscope dans l'univers, mais que nous sommes aimés. Et cet amour que Dieu nous donne, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, on l'a lu tout à l'heure, Jean 3,16, eh bien c'est l'émerveillement de la grâce. Et quand on fait cette expérience, eh bien les choses changent, même la misère, et il y a le responsable du défi Miché qui était parmi nous il y a 2 ans, il a dit la plus grande pauvreté, en particulier en France, on n'a plus trop parce que l'État prend soin des pauvres, mais c'est la pauvreté non pas matérielle mais anthropologique. C'est de se sentir pauvre. Pauvre parce que je ne vaux plus rien, parce que l'entreprise dans laquelle je suis, ça ne me donne plus la satisfaction, etc. Cette pauvreté anthropologique. Et comment est-ce qu'on va répondre à ça? Mais le chrétien a une réponse, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Tu es aimé de Dieu. Et c'est ainsi qu'on peut aider, je pense que vous avez discerné dans la présentation des associations qu'on a fait, cet Évangile est au centre parce qu'il donne le plus pour avoir l'espoir, l'espérance de cet amour de Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous distingue? Eh bien, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, ce n'est pas que nous sommes meilleurs, les chrétiens ne sont pas meilleurs. Celui qui se croit meilleur, il se trompe complètement. Qu'est-ce que dit Paul dans cet épître aux Corinthiens? Il dit, car qu'est-ce qui te distingue des autres, dit-il Paul? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Voyez-vous, la clé pour le chrétien, c'est qu'il ne se glorifie pas. Il glorifie Dieu. Merci Seigneur parce que tu m'as donné cet appel pour les pauvres. Moi, ça m'enrichit parce que, au contact, eh bien, je vois ta grâce et c'est l'épanouissement. Regardez Mère Teresa et autres qui nous donnent cet exemple-là. Les fruits de la foi, la grâce de Dieu, plutôt que de nous rendre supérieurs aux autres, nous équipent d'abord nous-mêmes par rapport à nos faiblesses, nos insuffisances. Et le chrétien a le privilège d'avoir un Père riche et généreux qui possède tout abondamment, Romains 8, 32. Il a la grâce de percevoir l'humanité telle que Dieu l'a voulu, telle que Dieu l'aperçoit et qu'il la décrit dans sa parole. Et le dernier verset que je cite, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. Et il a, donc le chrétien, les critères pour reconnaître et désigner le bien et le mal. En un mot, le chrétien vit les prémices du royaume et il éclaire de ces prémices les réalités qui l'entourent. Je vous invite à prier que Dieu puisse vraiment nous aider à vivre cette réalité.